Allez, c'est parti pour nous, messieurs-dames, on est bien, on est là, on est Sport Épique, Sport Épique, c'est formidable. Y'a pas foule, hein, c'est encore des week-ends prolongés, avant on était en vacances, machin, mais j'ai mon Gilbo, ça c'est bien ça. T'es pas parti sur l'eau, Gilbo, pour le...
Eh non. On fait pas le pont, nous, à l'éducation nationale.
Ah, bravo.
Ça, je veux pas raconter ma vie.
Bravo,
mais...
ça travaille. Ça fait plaisir. Par contre, évidemment, ça laisse plus de temps quand même pour suivre toute l'actualité sportive.
Ah,
est-ce
oui
que t'es au top, là, mon Gilbo, là?
Oui, très bien. Ligue d'Esch à fond.
Ouais,
championnat aussi, parce que c'est intéressant, championnat de France.
Championnat, je crois qu'il n'y a plus que toi qui regarde, mais oui.
Bah, il y a quand même une course à l'Europe passionnante.
Il y a une course à l'Europe, t'as peut-être raison.
C'est vrai.
Qui est concerné, peut-être qu'on se fera une petite page championnat de France. Je sais pas si ça intéresse les gens, mais on peut essayer aussi. La voile, il se passe plein de choses, Gilbo, ou non, là?
On
est dans le creux, et t'es aussi notre spécialiste tennis.
Tennis, golf.
Et vélo, t'adores ça, bien sûr, une petite page de vélo. Mais évidemment, alors on est sur une semaine Ligue des Champions. Il reste un club français ou qatari, d'ailleurs, je sais pas trop. Savoir un certain PSG. Alors, dans ces cas-là, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On appelle notre consultant vedette du PSG, à savoir Nico. Salut Nico, t'es avec nous?
Bonsoir à tous.
Salut Nico. Alors, ambiance joyeuse, machin, comment ça se passe? Si tu écoutes les gens, on a roulé sur Arsenal, on a machin, ça a truc chose. Ouais, moi, je vais te dire, je trouve pas du tout. Un 2-2, ça aurait été tout à fait logique. Ça m'aurait pas choqué. Qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ah non, complètement. Là, c'était 50-50. Donc, tout comme ça sera 50-50 au match retour aussi. Je trouve pas qu'on a... Non, il n'y a pas eu... On a fait Donnarumma qui nous fait des belles sorties et des belles parades. Sans ça, on aurait pu encaisser des buts aussi. Donc, franchement, c'était équilibré. On a réussi à marquer un but. Voilà. C'était vraiment très équilibré. Donc, vivement le match retour.
Tu commences direct avec Donnarumma, Nico. C'est bien, là, au bout de, je sais pas combien de temps, là, 3 ans peut-être, de Donnarumma, que ses partenaires...
Oui, ça y est, là, il commence à s'imposer. On le voit vraiment dans ces moments-là, dans les moments de Ligue des Champions, avoir du caractère. Donc, là, on voit qu'on a un gardien sur qui on peut compter.
Attention, parce que
comme ça, mais...
là, on a l'impression que le mec, tout est réglé. Ce que je pense, moi j'ai toujours été fan, mais il y a encore le match aller contre Liverpool où on prend le but à la dernière minute là. Il est quand même il a été pas mal chahuté par rapport à ça, donc c'est quand même très récent aussi, hein.
Ouais,
c'est tout récent, je suis d'accord avec toi, mais bon, je préfère le voir comme ça.
Ah bah là, ouais, c'est énorme. Et sur le match, le PSG a quand même été sur la première demi-heure, les gens qui suivent Arsenal disent qu'ils n'ont jamais vu Arsenal se faire dominer à ce point. Et c'est quand même... Je trouve que PSG a quand même s'est montré comme supérieur. Moi.
Non, bien sûr. Je t'interrogeais sur Donnarumma parce que je trouve qu'enfin, ses partenaires, au bout de 3 ans, ont compris qu'il ne faut pas jouer au pied avec lui et qu'il est bon qu'à la main. Donc, moi, j'encourage tout le monde à ne pas faire comme avec tous ces nouveaux gardiens. Tous les nouveaux gardiens, ils sont libéraux, on a l'impression. Et c'est à moitié des génies des pieds, tant mieux pour eux. Mais...
Raya, en particulier, d'Arsenal, il a joué quasiment défenseur.
Ouais. Et alors ce fameux débat là, moi qui m'interpelle depuis peut-être 2-3 ans maintenant, c'est-à-dire que les risques qui sont pris sur les belles relances, j'en ai certainement déjà parlé ici, mais ça devient presque ubuesque par moment, les situations, tu te dis, mais les mecs ils mettent leur partenaire dans une merde pas possible, juste parce qu'il faut faire du beau jeu, il faut faire la barcelonaise, mais je pense que tout le monde déjà n'est pas capable de faire ça, et puis franchement, ça dépasse un petit peu les bornes. Toi t'en penses quoi, Nico, là?
Ah non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis Donnarumma en plus là-dessus était coutumier du fait, c'est-à-dire que lui avec le Real Madrid il y a quelques années, on a eu l'exemple où il a voulu vraiment absolument ne pas dégager.
Voilà.
Se faire avoir et éliminer comme ça. Donc là, quand je l'ai vu dégager des fois, et apparemment ça plaisait peut-être pas à Luis Enrique, mais tant pis, c'est pas grave.
Ouais.
Vaut mieux en situation d'urgence, balance-moi des longs ballons.
Ouais.
Et c'est sûr, parce que c'est sûr que comme tu dis, le jeu du Barça reste le Barça. Faut pas trop en abuser non plus. Faut rester pragmatique des fois.
Mais là, t'as des risques incroyables. incroyable. Tu regardes le match du Barça, justement, mercredi, c'était mercredi soir. Tu regardes l'adversaire qui veut aussi sortir proprement. Ouais. Sauf qu'en en face, c'est Coco, c'est le Barça, quoi. Donc il y a un pressing de fou furieux et quasi systématiquement, la balle est perdue. Donc un peu d'humilité par moment. Soit, moi, je suis un aficionados. J'ai été sous les ordres d'Arnaud Fisson. Et donc pendant des années, il nous a quasi engueulé quand on dégageait. Mais à un moment, il faut quand même prendre ses responsabilités. Et t'as raison, Nico. Bon, oui, il faut écouter un entraîneur, bien entendu. Mais à un moment, il faut décider soi-même. Et la situation ne me permet pas tout ça. Bon, au-delà de ça,
D'autant plus, si je puis me permettre, en plus, t'as les quatre équipes qui sont là en demi-finale. On a l'impression que les quatre elles pressent de la même façon. Elles attaquent et vont chercher le ballon dans les pieds des défenseurs. Donc c'est pour ça qu'elles ont le même style de pressing.
Mais là, on a fabriqué des monstres, hein, j'ai l'impression, parce que physiquement, je sais pas si les gens se rendent compte de l'intensité de ces matchs-là. Il y avait l'entraîneur de Liverpool, justement, quand ils ont affronté le PSG, qui nous dit je n'ai jamais vu un match d'une telle intensité. Et même sans vous parler de tacle ou d'engagement physique, moi je parle simplement de la dépense énergétique sur ces matchs-là. Les courses folles que peuvent faire un Hakimi ou de l'autre côté, comment il s'appelle
Nuno Mendes.
Ces types-là n'arrêtent pas de tout un match. Collez-les sur un marathon. Je pense qu'ils sont pas ridicules du tout. Les gars, ça devient hallucinant.
Et
les mecs,
Nico, t'as pas l'impression que Paris ils fatiguent? Moi je pense qu'ils sont fatigués, ils sont cuits.
Oui,
ils finissent ces matchs, ils en peuvent plus.
Je suis d'accord avec toi, c'est à dire qu'ils ont fait une telle débauche d'énergie depuis janvier,
ouais.
Et qu'ils commencent à pêcher un peu physiquement. Et je trouve qu'Arsenal, on les a pas vus comme ça jusqu'à présent, autant en difficulté et à court, un peu, on va dire, des fois par moment physiquement. Comme quand Saka, par exemple, il prenait un coup ou autre, il restait je sais pas combien de temps à terre. Enfin, c'est pas le même joueur que d'habitude, mais je pense que ils commencent tous à ressentir un peu de fatigue.
Ouais, Paris termine les matchs durs, hein. À chaque fois, Aston Villa, là, Arsenal, c'était
on
dur.
On a la chance qu'il n'y ait pas de blessés. Oui.
Ouais.
Ah ben ouais.
Mais moi, je répète, je trouve ça tout à fait normal vu l'intensité. Ah, c'est sûr qu'à l'époque, hein, les Messi, Neymar, Mbappé, eux, ils devaient finir assez frais leur match, ça y avait pas de souci. Là, les mecs, du numéro 1 au numéro 11, les mecs se donnent de la même manière et je trouve ça admirable. Bravo à eux. Et moi, j'accepte tout à fait que les joueurs soient fatigués sur le dernier quart d'heure. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas des marathoniens non plus. Hein.
Quand on voit Dembélé, la débauche d'énergie qu'il met,
Barge.
Stressé, c'est incroyable.
Barge, le nouveau là, Gvar Axela, machin.
Bah lui, c'est.
Le mec, n'arrête pas. T'as l'impression de voir les Griezmann des débuts, les Ribéry des débuts.
Ribéry, je suis d'accord.
Des trucs de fou.
Il perd un peu de lucidité devant quand même.
On peut pas lui reprocher après. Il fait une telle débauche d'énergie défensive que, à mon avis, ça doit être dur d'être très lucide.
Ouais.
Et le problème aussi, c'est que le banc, finalement, il fait pas tourner, Luis Enrique.
Mais après, c'est ce que je regardais, moi, c'est qu'il n'y a pas tellement sur le banc, à part les trois qu'il a changé là.
Ouais.
Après, si, il reste Lee Kang-li à la rigueur, mais on n'a pas non plus un banc.
Ramos a été excellent quand il est rentré.
Lui, il peut rentrer. Et par contre, là c'est pareil, c'est peut-être déjà dit ailleurs, mais c'est pas grave, on aime se répéter aussi. Mais l'enfer pour un défenseur, quand tu sais que Doué va sortir par exemple, il t'a brisé les reins pendant une heure, il t'a mis la misère, et tu regardes qui rentre, c'est un Barcola qui va aller à 2000, qui va te tuer également sur chaque crochet. Et ça, tu vois, Nico. Alors j'invente rien, c'est une banalité si vous voulez, évidemment, mais tout miser sur un joueur comme ça a été fait pendant des années, tout miser sur une équipe, sur un joueur, on se rend compte que c'est pas forcément futé. Et là on te mise toute une équipe sur un vrai collectif, et même devant les vedettes, il y a pas un qui tire forcément son épingle du jeu. C'est tous des cadors absolus, quoi.
Du moins oui, ils peuvent tous être remplacés. Et alors qu'avant on pouvait pas remplacer les méga stars, s'ils remplaçaient c'était polémique. Donc ils sont pas contre sortir s'ils ont bien donné, s'ils ont plus d'énergie. Donc,
T'as pas le choix avec Luis Enrique.
On est plus dans une équipe.
Alors messieurs, vous allez me dire un peu des équipes qui se sont construites pour un seul joueur, autour d'un seul joueur. Ton joueur préféré, tiens, peut-être d'ailleurs, Gilbo, toi là à l'époque.
Oh, facile.
Ouais.
L'Argentine de Maradona.
Et le Naples de Maradona.
Oui, le Naples, bien sûr.
Naples. Et le Naples de Maradona, où on te dit, moi forcément, je regardais pas forcément Naples, mais on te dit que tout était fait pour Maradona, quoi.
Bah oui, oui, mais c'est logique aussi, quand t'as un mec comme ça. Tu...
Bon, là, ça a fonctionné à cette époque-là, donc ça va un peu à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais t'as d'autres exemples, Nico, sur des équipes
oui,
qu'on...
Le Barça de Messi, par exemple.
Le Barça de Messi. Alors, je trouve qu'on est toujours un peu dur de dire ça, parce que quand t'as quand même des Iniesta, des Xavi dans l'équipe.
Ouais.
Mais c'est vrai que Messi, bah, le jeu était quand même pour lui, quoi.
Bah voilà, lui en fait, on va dire, quand je dis Barça de Messi, c'est-à-dire que n'importe quel coach en fait l'aurait dans son équipe à cette période-là, lui dirait non mais toi, c'est pas grave si tu défends pas.
Ouais.
Donc à partir de ce moment-là, c'est les autres qui doivent plus défendre pour lui quoi.
Ouais, mais alors
logique,
enlève Maradona de Naples, est-ce que tu gagnes le Scudetto? Bon, on peut dire clairement non.
C'est des joueurs qui le méritent hein, ça c'est à un moment donné, il y a pas de problème. Quand tant que lui il met des 3 4 5 buts par match ou autre, bah tu te dis bon bah moi on va justement mettre les bouchées doubles et faire plus de combler son travail à lui, il y a pas de problème tant que offensivement devant, tu sais que c'est fulgurant comme Ronaldo anciennement au Real Madrid aussi.
Ouais, et mais parce que j'allais te demander, enlève Messi des années dorées du FC Barcelone, est-ce que tu gagnes quand même la Liga?
Ah, la Liga, oui, la Ligue des Champions. Après, je sais pas si tu domines autant. Je sais pas. Ça, non. Mais après, ouais, parce qu'il y avait quand même la mise en place du jeu de Guardiola, etc.
Ouais, c'était un truc de barge aussi.
Ouais, c'était quand même pas rien. Mais après, bah, Messi reste Messi. Donc.
C'était surtout Messi quand ils sont champions du monde, qui courait pas. Là, les mecs se sont dépouillés.
L'Argentine de 2022, comme ils ont tous joué pour lui.
Ouais,
ouais.
On aurait dû faire à Paris. C'est-à-dire que bon, on aurait dû faire un an avec les trois galactiques, là, et Neymar, Mbappé,
voilà,
et Messi. Et la deuxième année, on aurait dû dire au revoir à Mbappé et se concentrer sur Messi.
Ciao les artistes.
Ah ouais.
On aurait dû se concentrer sur Messi.
Oh
voilà,
non.
Carrément,
non.
La deuxième année, on aurait dû faire parce que lui, il faut que l'équipe joue pour lui.
Ah ouais.
Bah, Mbappé aussi.
Lui, là, par exemple, au Miami, Miami, je sais plus où il est. Ouais, c'est ça.
Si, c'est Miami.
C'est la même chose. Ils sont tous là pour lui. Il a le capé. Il a le brassard directement, allez, bah, faites, et moi je vais finir devant.
Ouais,
eh ben non, peut-être. Bon, on a changé d'idée, en tout cas, on est passé sur un jeu collectif, et vraiment, bah, bravo à Paris, parce que je dis, même moi qui vraiment déteste cette équipe, bah, je dois bien reconnaître que c'est quand même fabuleux. Et alors après, on a ces joueurs-là, ces joueurs sortis du chapeau, ou plutôt sortis de la caverne, parce qu'ils étaient un petit peu enterrés, des ruises.
Ah oui.
C'était devenu presque en début de saison, presque risible. Attention, hein, ça reste des grands, grands champions, évidemment, mais bon, tu sentait qu'il avait plus forcément sa place, ben le mec profite de la blessure de Zaïre Emery, qui était la petite pépite. Zaïre Emery est blessé pendant peut-être 3 semaines, 1 mois. Ben le mec a su exploiter ça, et derrière, c'est devenu ce joueur hyper propre, hyper intelligent, hyper intéressant, et quasiment essentiel comme maintenant. Là.
Exactement, il commence à prendre des responsabilités. On voit que dès que Dembélé décroche, alors, je sais pas, c'est pareil, c'est le préset Barça ou pas, mais c'est lui qui va plonger dans le dos des défenseurs. Ça, on l'a vu beaucoup de fois.
Ouais.
Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'à un moment donné, l'année dernière, il osait pas, quand il y avait encore les mégastars et tout, il prenait pas ses responsabilités. Et puis
ouais.
Il osait pas dédoubler, faire un déplacement de fonction quand t'es milieu de terrain.
Après, donc, quand il a un ballon bien placé, il a du mal. Mais bon, je chipote, super joueur.
Un des joueurs les plus importants, si tu dois en sortir un à Luis Enrique cette année, je pense qu'il va te sortir le Ruiz facilement. Il avait dit d'ailleurs, je regrette de ne pas l'avoir emmené avec moi à la Coupe du Monde 2022 quand il était sélectionneur.
Ouais. Et tu vois, il y a ces. Je regardais dans la semaine, je regardais un reportage sur Giroud par exemple. Et Giroud dit qu'à un moment, moi, ma carrière bascule aussi parce que Benzema a des problèmes avec la justice. J'y peux rien, mais c'est comme ça.
Ah oui.
Il profite de ça et je trouve ça fabuleux. Ces joueurs-là, enfin, ils voient une opportunité. Ils sont numéro 2 voire numéro 3 et il y a une opportunité, il y a une fenêtre qui s'ouvre et les mecs sautent dedans et c'est fabuleux et ils assument et derrière ça devient des cadors quoi. Et bravo à eux parce qu'il faut une grosse force mentale quand même, je pense.
Bah ouais carrément. Et moi par contre, si je peux me permettre aussi, c'est de souligner, c'est le petit João Neves qui m'impressionne quoi, 19 ans.
Ah oui. Oui.
19 ans.
Le sauvetage qui te fait dans la surface, défensivement parlant.
On compte pas les kilomètres. C'est ça qu'il nous fallait. De toute façon, c'était des joueurs qui puissent en fait courir sur un match plus de, je sais pas, 11, 12, 13 kilomètres.
Ouais.
On n'avait pas avant, quoi.
Ouais.
Et ce critère-là est très important. Et je trouve que là, on les a. Et puis Vitinha qui a passé un cap. Et on voit aussi que ça fait partie vraiment des cadres de l'équipe aujourd'hui. Donc ça fait 2 ans qu'il est là. Ouais, c'est ça. Donc franchement,
génial.
C'est un milieu de terrain très vraiment très intéressant.
Génial. Et t'as suivi le reste un peu, Nico, ou quoi?
Le reste, oui, avec Lyon. Barcelone-Inter.
Barcelone-Inter, c'est génial. C'est un match de fou. C'est,
Des buts de fou.
Alors là, c'est pareil. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu ces débats-là, messieurs, dames, à U et à Dia. Mais toujours est-il que Yamal, est-ce qu'on est parti pour la superstar absolue du foot sur les 10 prochaines années? Est-ce que j'entendais, est-ce que il passera devant ce fameux Léo Messi? Je le trouve fabuleux de, bah, évidemment de dribble, fabuleux d'intelligence, fabuleux de débauche d'énergie et bah, d'une précision machiavélique, c'est extraordinaire.
Incroyable. Et tu dis qu'il n'a que 17 ou 18 ans, donc c'est une marge de progression énorme. Donc, mais quand tu vois la capacité d'élimination qu'il a, d'accélération, sur quelques dribbles, paf, paf, et puis après, il y a une précision chirurgicale, comme tu dis.
Ouais.
Franchement, ouais, va falloir compter sur lui pour les années à venir. Ouais.
Mais tu te dis, c'est que si c'est déjà le mec, là, déjà à 18 ans, putain, il est quasi plus grand derrière, qu'est-ce que tu veux faire pendant 15 ans, là? Tu me diras, c'est ce qu'ont fait Ronaldo et Messi, ils se sont partagés les ballons d'or pendant 15 ans, hein. Mais après,
est-ce qu'il va tenir dans le temps? Parce que les pépites au Barça, est-ce qu'il va pas se griller? Non, je pense pas.
Bah, c'est vrai, hein, c'est l'interrogation, évidemment. C'était ce qui est passé à la trappe, sur qui on a fait plein de blagues avant, là. Bref, du Barça également, mais blessé, trop jeune et ainsi de suite, compliqué. Est-ce qu'on est parti, Nico? Alors je disais pour un joueur exceptionnel pendant 15 ans, mais là, à plus grosse échelle, est-ce qu'on est parti pour une domination écrasante du Barça pendant, bah, c'est pareil quoi, pendant 10-15 ans peut-être, parce que là, c'est extraordinaire ce qu'ils te font aussi eux.
Ah ouais, ils ont un super milieu de terrain aussi, comme tu dis, les Gavi qui est énorme, Dani Olmo, c'est vraiment costaud, c'est des joueurs de ballon incroyables, et quand tu vois que c'est des petits jeunes qui rentrent comme Firmin aussi, un des remplaçants, qui est gros espoir et gros, on va dire talent très prometteur aussi, franchement, ouais, le Barça pour moi, moi au départ, depuis les quarts de finale, j'ai dit normalement la finale ça serait Barcelone-Arsenal, mais...
Ah bon?
Ouais, carrément, parce que bah, je voyais, moi, en termes de jeu et tout, les plus dangereux et ceux qui faisaient le plus peur, c'était ces deux équipes-là.
Ouais.
Et je pense que Barcelone, c'est peut-être leur année.
Ah ouais, en attendant, ils font 3-3, c'est pas fait du tout pour le retour. Hein.
Alors oui, exactement, c'est-à-dire que...
Parce que là...
C'est-à-dire que c'est pas fait du tout et que les Italiens, ils ont bien surpris, et puis on sait jamais, on n'est pas à l'abri. Il n'y a pas de problème. Et puis, par contre, Barcelone, ils reviennent, étant menés 2-0, ils reviennent à 2-2.
Extraordinaire.
Ils sont capables de...
Et Barcelone en défense, attention, le goal n'a pas été top. Il y a des petits points faibles sur la défense, si tu les joues bien.
Ils ont plus les Dani Alves qu'ils avaient avant et Jordi Alba de l'autre côté, où eux, franchement, c'était... c'est parti des meilleurs de l'équipe aussi, enfin ils étaient tous bons.
Ouais.
Et là ils ont plus leur équivalent. Je pense que c'est là où offensivement et dans le milieu de terrain, attention, mais par contre après défensivement il y a un coup à faire.
Koundé blessé.
Peut-être Koundé blessé malheureusement, parce que Koundé, on regardait un petit peu là l'autre jour les différents Français qui sont passés par le Barça. Il n'y a pas eu des réussites, mais Koundé c'est devenu très fort.
Ouais, très fort.
Il est fort. Je suis d'accord avec toi.
Alors moi j'étais pas fan du tout il y a peut-être 2-3 ans de Koundé, je le trouvais hésitant.
En équipe de France en particulier, il est devenu très bon aussi.
Bah ouais, c'est devenu un joueur de fou. Ouais. Et puis il a pris une masse corporelle. Toi tu dirais qu'il est passé par l'Italie à l'époque de Zidane.
Ah ouais, et puis l'attaque aussi, c'est énorme.
Ouais, c'est très très fort. C'est très fort. Alors évidemment l'International Board me dira non, mais moi j'aimerais quand même changer une petite règle avec vous, messieurs. Vous nous direz ce que vous en pensez aussi, messieurs dames, en écoutant l'émission, mais moi quand je vois l'Inter jouer, et bravo à eux, hein, pour leur résultat, résister au Barça chez eux, évidemment c'est déjà un exploit, mais quand je vois l'Inter jouer et voir 3 buts sur coup de pied arrêté, ça m'intéresse pas en fait, le football. Ça veut dire qu'on travaille quoi à l'entraînement en fait, parce que vous voyez sur le banc, si messieurs dames vous avez regardé le match, sur le banc vous avez l'entraîneur des coups de pied arrêtés. Ça veut dire que le mec, on va bosser, on va faire des séances de coups de pied arrêtés. C'est pas forcément captivant, quoi. Le foot, c'est autre chose que ça. Et t'as l'impression qu'il y a des équipes qui s'en remettent à ça. T'en penses quoi, mon changement de règle, Nico, toi?
C'est-à-dire que toi, tu voudrais pas qu'on marque de but sur.
Bah oui, qu'est-ce que tu veux changer?
Ouais, qu'est-ce que je veux changer? Bah, je veux. J'en sais rien ce que je veux changer, mais je veux minimiser ce rôle des coups de pied arrêtés, là. Je veux.
C'est très très important aujourd'hui, quand même. Moi, non, bah, en fait, c'est vrai que c'est impressionnant. Après, bon, je te gasse pas que ça me saoulait de voir le. Par exemple, Arsenal et le ballet qu'ils font, toute la chorégraphie qu'ils font.
Oui.
Ouais, c'est bon, au bout d'un moment, c'était chiant aussi.
Oui,
mais,
oui.
Mais aujourd'hui, c'est force de constater que c'est très important. Et moi, je trouve que non. Au contraire, plus tu peux travailler certaines zones et que tu travailles et que tu t'en mets pas au hasard et au destin sur ces choses-là et que c'est quelque chose de très très travaillé, moi, je trouve que c'est bien. Tant mieux, tant mieux. Après,
l'entraîneur
soit au bord du terrain et que ça tire la vedette alors qu'il y a 30 000 personnes, personne l'entend, il gueule et tout. Non, reste à ta place là-dessus.
Et,
fais un débrief à la mi-temps sur chaque coup franc. Mais voilà, va pas non plus.
T'as raison. Pour rien. T'as raison. T'as l'impression que c'était l'entraîneur principal. Bah, c'est presque vrai, puisque c'est lui qui offre.
Oui.
Si on considère qu'il a bien bossé ses coups francs, c'est presque lui qui offre la victoire à son équipe. Mais bon, moi, je trouve ça un peu dégradant pour le foot. C'est quand même autre chose. Et toi, qui as été entraîneur de futsal, Nico, alors là, on te parle pas évidemment de pute sur corner ou de la tête ou autre, parce que c'est quasiment impossible en futsal. Mais je trouve que c'est un peu le même souci. C'est-à-dire que vous travaillez énormément de combinaisons de jeux placés, et à l'arrivée, quand on va regarder un match de futsal, 85% des buts, c'est des contre-attaques. Donc est-ce qu'il vaudrait pas faire que travailler de la contre-attaque que des pertes de balles rapides? Tu vois, moi, ça m'agace un peu de voir qu'une équipe qui joue hyper bien peut passer à la trappe parce qu'il y en a un qui a donné un bon coup de tête, quoi. Tu vois,
je suis d'accord avec toi, mais après, il fallait être complet. Justement, dans le futsal, c'était pareil. Les phases de transition à travailler, bien entendu, beaucoup, mais il y avait beaucoup de combinaisons, que ce soit sur des coups francs éloignés, des coups francs rapprochés, et aussi sur les corners. Et moi, je mettais des challenges à mes joueurs s'ils arrivaient à faire une de ces combinaisons-là et marquer des buts sur une de ces combinaisons qu'on aurait vues à l'entraînement. Après, il y avait des récompenses derrière, ceci, cela. Tu vois.
Ouais, mais en fait, c'est comme dans tous les sports co. Hein. C'est comme ça, la plupart des sports co.
Ouais, non, mais je trouve que maintenant, ça fait partie du foot, c'est l'évolution. Et il faut. Parce que sinon, des fois, c'est trop facile aussi de casser une action de but et de faire un coup franc gratuitement et de pas derrière de pas s'en servir, quoi. Donc
oui.
Au contraire, il faut que ça soit un danger pour tout le monde. C'est parti de l'évolution.
Il paraît qu'il y a plus de buts sur contre-attaque sur corner que sur corner.
Ah.
Eh oui, j'ai entendu ça.
Parce
qu'il y avait énormément de buts aussi sur contre-attaque.
Bah, tu regardes.
Sur les corners où tout le monde est devant, les mecs, ils s'oublient de défendre.
Bah, tu regardes le Barça sur les peut-être 20 dernières minutes. Je sais plus avec qui je regardais le match. Je disais, non, mais regarde, les mecs, le pressing de dingue qu'ils mettent. Mais ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu presses tellement que t'as plus personne pour toi défendre s'il y a une contre-attaque. Et l'Inter de Milan, ils ont été très malins. Hein, ils savent défendre, donc il n'y a pas de souci. Et ensuite, s'ils arrivent à lancer correctement leurs joueurs. Il y a plusieurs situations chaudes, donc forcément c'est à double tranchant tout ça, mais bien sûr je pense que la règle ne changera jamais, mais c'est un petit peu décevant.
C'est de l'évolution.
Parfois, peut-être. Alors quel plaisir quand même de voir du foot, Nico. Parce que moi, je vous cache pas que là, il y a eu également la Coupe du Roi en Espagne, avec ce Real perdant, avec ce Real qui a disparu de la Champions League également, qui est honteux, qui devient la risée du foot sur la scène internationale, qui est en train c'est le stéréotype en fait du foot catastrophique, à pleurer tout le temps. À insulter tout le monde et ainsi de suite. Je crois qu'on est passé là dans une ère mais absolument affreuse côté Real. Les autres équipes font peut-être un peu d'efforts, mais le Real, le plus grand club du monde quand même, est en train de se tuer tout seul. Tonico là.
Ouais, non, mais complètement. Et puis faut les laisser dans leur délire. Et puis déjà, ils ont leur projet de Super League depuis des années.
Ouais.
Mais en plus, ils veulent quitter une Ligue des Champions qui gagne. Eux sont les tenants du titre. Enfin, je veux dire, ils ont remporté le plus de titres. Mais là, ils ont dépassé les limites, je trouve, déjà, en s'en prenant, en ayant des outils de communication qui font des pressions sur les...
Oh là là.
Et ça, c'est pas bien. Et après, l'image du foot, et là, c'est déplorable, c'est-à-dire de voir des joueurs qui étaient prêts à en venir aux mains.
Ouais.
Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et des vraies causes... Enfin, je vais pas faire ma Miss France, tu vois, mais il y a vraiment de la guerre et vraiment de la misère chez certaines personnes. Le foot, on n'est pas censé voir ça. Et faut accepter de perdre. Soit t'acceptes de perdre, soit t'acceptes pas de perdre.
Un truc de dingue.
Comme on dit, comme bon gagnant, quoi. Mais Mais ouais, non, c'est des images qu'on, comment vous voulez après que nos jeunes, qui sont même ne serait-ce qu'en dans du foot amateur, puissent bien se comporter si déjà eux, à leur niveau, ils se comportent super mal.
Et ce message là, mais ce message, bah, il est quand même porté évidemment, hein, parce que bah, tous les gens de l'audiovisuel font de la bonne parole, et j'imagine que les entraîneurs quand même font le travail. Mais je comprends pas que ce sport soit miné comme ça. C'est affreux, parce que regardez quand même Kvaratskhelia qui subit peut-être une faute dans la surface également. Bon, bah, le mec va quand même essayer de demander à l'arbitre qu'est-ce qu'il en est, est-ce que c'est checké, est-ce que machin. Mais il y a à aucun moment il y a une émeute, à aucun moment il y a un problème national, international, machin quoi. C'est juste une faute, les mecs.
Il n'y a plus Verratti non plus. Donc, c'est pas faux.
Après, nous on a habitué cette saison. Hein, ça arrive au mois de mai comme ça. On a souvent des trucs comme ça. On est habitué.
Et pour un petit changement de règles, tiens, on en parlait, mais ça arrive pas souvent au foot. Ce fameux but à l'extérieur là qui a disparu. Est-ce qu'on garde? Est-ce que c'était une bonne idée?
Ça c'est bien. Bien sûr.
Ah ouais.
Bah bien sûr. Ouais, ça laisse plus de suspense.
Les uns après les autres, messieurs. Ouais, Gilbo, vas-y.
Ça laisse plus de suspense. C'est évident qu'avant tu marquais 1-0 là. C'est vrai que c'était quasiment plié du coup.
Ouais, c'est vrai. Enfin,
peut-être pas à 1-0, mais à 2-0, tu vois. Et là, je trouve que c'est plus ouvert.
Tu voyais pas de bus, quoi. Il y en a un qui gagnait à 1-0 à l'aller, il allait faire une Mourinho au retour et mettre un avion devant les buts. Donc là, au moins, tu sais que tu dois mettre un but de plus que l'adversaire, et tu sais que arrivé à la fin du match aller, c'est que la mi-temps. Et rien n'est joué, rien n'est plié, à part s'il y a plus 4 ou plus 3-0, c'est sûr. Mais s'il y a que 1 ou 2 buts, c'est que la mi-temps, et il reste 90 minutes à jouer, donc
c'est
mieux comme ça.
Vous aviez pas des petits coups de palpitant supplémentaires, vous, sur le match aller, de vous dire putain, mais là, si on encaisse à domicile, on est quasiment mort pour le retour?
Le problème.
Des petites choses comme ça, je sais pas, ça donnait un petit, une petite exaltation supplémentaire. Alors, il y en a peut-être pas besoin, le foot est déjà très beau comme ça, mais je suis un poil nostalgique, moi, de ce.
Non, parce que je trouve que là, tu as juste à dire à tes joueurs, faut juste mettre un but de. Donc ça laisse le temps de jouer, ça laisse pas de calcul à faire, il y a pas de dans les derniers quarts d'heure en fonction des résultats, il y a pas de moi je trouve que pour moi ça permet de faire plus de jeux, du moins.
Ouais, d'accord.
Plus conventionnel.
D'accord. Alors messieurs dames, qui vous êtes peut-être pas très foot, hein, excusez-nous, nous on adore ça quand même, et c'est quand même une très belle semaine footballistique. Mais là, je me pose des questions, c'est forcément l'avenir de la fameuse Ligue Europa, parce que même des gens donc comme moi, on a vécu un super match mardi soir, on a vécu un match extraordinaire mercredi soir, et jeudi soir, on vous envoie de la Ligue Europa. Donc qui a encore les cannes pour aller regarder ça? Vous faites un avant, comment on appelle ça dans les concerts là, quand quelqu'un vient chanter avant la vedette, la première partie. Vous faites la première partie, vous la faites après. Et est-ce que c'est un peu la mort de cette coupe là? Est-ce que non, c'est durable? Parce que quand vous aimez le foot, vous regardez tout, quoi qu'il advienne. Mais j'en sais, moi j'ai plus les cannes. Hein. Le jeudi soir, j'ai plus les cannes pour regarder. Toi, Nico, t'es comment?
C'est pareil, à part si tu me sors une très grosse affiche et qu'il n'y a rien d'autre de mieux à la télé, mais sinon, c'est vrai que je suis d'accord avec toi que la Coupe de l'UEFA, ça perd de son charme.
Bah ouais, alors que c'est quand même quelque chose, quoi. C'était quand même un truc
énorme. Sauf si, pour les équipes, parce que quand ils vont gagner, ça va être la fête, ça va être encore le palmarès.
C'est vrai.
France, vous pouvez choper une Ligue Europa, ce serait déjà énorme.
On serait hyper.
Ce Lyon là, ils sont quand même.
Ouais. Mais c'est vrai tout ça. Mais par contre, faut arriver en demi-finale pour commencer à vibrer de quoi que ce soit, parce que je me rappelle la dernière fois que Marseille y va, ça commence à vibrer quand c'est
t'avais Lyon Manchester, mais c'est vrai que nous, si c'est pas ton équipe, on suce, c'est vrai,
on suce quoi.
Puis ils arrivent après, ce week-end il y a le championnat qui reprend,
il y a tout ça, alors c'est vrai. Et encore je vous dis, on est très foot, vous messieurs dames vous l'êtes peut-être pas, mais c'est vrai qu'il faut s'accrocher au bout d'un moment devant la téloche, parce que on en bouffe et c'est tant mieux pour nous, c'est juste magnifique ce qu'on voit, mais époque dorée. Merci Nico, merci pour cette page. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le match retour là?
Qu'on puisse gagner au Parc, 1-0, ça serait pareil, le même score.
1-0, le même score.
Top du top. Mais bon, ça va être très très dur. Donc même un match nul, je prends du moins. Mais
qualif.
On se donne à 90 minutes d'une finale. C'est
ouais.
Pareil,
ouais. Et je crois que tu la regarderas au pays avec Guillaume Ouarot, toi, non?
Ouais, c'est ça, je serai à 11 000 km ouais, pour le match retour.
Il retourne.
Donc, des heures de décalage, ouais, quand il sera déjà 23h, quand il sera 21h ici. En
fait. Ah oui. Ah ouais. Il retourne sur son île, le Nico. Eh bah, très bon, très bon voyage à toi, mon ami.
Merci à tous. Et bonne fin de journée.
Ouais, ciao, ciao.
Salut Nico.
Ciao. Eh bah écoutez, on va faire la petite coupure musicale là-dessus avant de se retrouver.
Jamais docile ni vraiment sage, nous ne faisons pas allégeance à l'aube en toutes circonstances. Nous venons briser le silence. Et quand le soir à la télé, monsieur le bon roi parlait, venu annoncer la sentence, nous faisons preuve d'irrévérence, mais toujours avec élégance. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Auto, métro, boulot, conso, auto-attestation, consigne, absurdité sur ordonnance. Et malheur à celui qui pense, et malheur à celui qui danse. Chaque mesure autoritaire, chaque relance sécuritaire voit s'envoler notre confiance. Ils font preuve de tant d'insistance pour confiner notre conscience. Continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Soyons pas impressionnables par tous ces gens déraisonnables, vendeurs de peur en abondance, angoissant jusqu'à l'indécence. Sachons les tenir à distance pour notre santé mentale, sociale et environnementale, nos sourires, notre intelligence. Ne soyons pas sans résistance les instruments de leur démence. Oh non, 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 nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous on veut continuer à danser encore, voir nos pensées enlacer nos corps, passer nos vies sur une grille d'accord. Oh, 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 passer nos vies sur une grille d'accord. Oh non, 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 nous, on veut continuer à danser encore. Voir nos pensées enlacer nos corps. Passer nos vies sur une grille d'accord.
Allez, encore un monstre, mon Gibo, qui nous rejoint après cette petite coupure musicale. Un monstre mayennais. Et non, nous n'exagérons pas, car qui peut se targuer d'être monté sur la boîte au championnat du monde? Pas grand monde, hein, et pas toi peut-être, Gibo,
ah,
surtout.
Non, pas toi,
malheureusement. Alors bravo à ce jeune, vous allez découvrir qui c'est, bien sûr, petit à petit, à qui on offre à 4 ans un jouet qui ne le quittera plus et qui deviendra son obsession. Évidemment, il s'agit de roller, on a tous eu ça à un moment, Gilbo. Alors de fait, au lieu de faire comme tout le monde et moi le premier, à savoir dire merci au Père Noël, sortir dans la rue une ou deux fois, se casser la gueule 3-4 fois et balancer tout ça à la poubelle, bah lui persévère pour atteindre un niveau international. Et aujourd'hui, je vous demande d'applaudir l'excellent Mathis Rocher pour du roller, évidemment. Salut Mathis.
Salut Mathis.
Bonjour à tous.
Et Mathis, alors vous entendrez peut-être derrière lui, parce que Mathis est en pleine compétition. C'est extraordinaire, là, tu nous accordes ce temps. T'es où, là, Mathis?
Là, actuellement, je suis à Gesingen, en Allemagne,
ouais,
pour une Coupe du Monde.
Ah ouais.
Donc, ouais, ça a commencé aujourd'hui et ça se passe plutôt pas mal pour l'instant.
Alors, dis-nous, alors ça, là, c'est quoi? Parce que je pense qu'en roller, il y a un paquet de disciplines, là. Toi, c'est quoi ton truc de prédilection, là?
Moi, ma course de prédilection, c'est les marathons. Donc là, ce week-end, il n'y a pas de marathon, c'est des courses sur piste, sur des anneaux de 200 mètres.
Ok.
Et donc non, là, ma spécialité, c'est plus les marathons. Donc c'est en ville, sur une distance de 42 km.
Ah d'accord, c'est la même distance qu'un marathon classique,
ouais,
quoi, de course à pied. Et comme tu dis, là, normalement, ça se déroule en ville, ce genre de marathon aussi.
C'est ça. En fait, on est en pleine ville... sur les routes de la ville, quoi. C'est assez large et en général c'est assez physique comme course.
Ok, ouais, et ça donne quoi, puisque alors les champions de marathon à pied ils sont à 2 heures là actuellement, ça donne quoi en roller, c'est combien?
1 heure.
Alors cette année au championnat du monde on a fait 55 minutes.
Ah ouais.
Donc c'est pas les mêmes temps.
Ah ben
ouais. Ouais, autour de 44-45 km.
D'accord. Et est-ce que vous êtes sur des parcours, vous, très plats, ou est-ce qu'on vous colle des bosses pour mettre un peu de difficulté?
Ça dépend des fois.
Ouais.
Moi, je préfère quand ça monte un petit peu, parce que j'ai un gabarit assez léger.
Ah.
Donc, c'est plus à mon avantage quand ça monte, mais en général, les champions du monde sont quand même plats pour que ça soit accessible à tout le monde.
D'accord. J'ai regardé ton Wikipédia, Mathis, c'est déjà costaud, hein, à ton âge, c'est déjà fort. Puisque tu vas dès 2022, tu prends du vice-champion de France, c'est en U22, c'est ça?
Alors, je sais plus quand est-ce que j'ai fait ma deuxième place, mais j'étais en poussin quand j'ai fait ma première place, mon premier podium.
Ah ouais?
Ah ouais.
Je crois que c'était, je sais plus quel âge j'avais, mais je devais être autour de 8-9 ans.
Ah ouais, d'accord, ouais, ouais. Non, parce que ça, moi je regardais tes années. Écoute, 2022, t'es 21e au championnat du monde. En 2023, t'es triple champion du monde des U22, en individuel, en relais, en équipe. T'es champion de France U22.
C'est pas exactement ça. Non, en fait, j'ai eu des championnats du monde en Colombie en 2021.
Ouais.
En 2020, j'ai pas pu les faire parce qu'il y avait donc le Covid.
D'accord.
Donc, j'ai pu faire que en deuxième année. C'était en Colombie, c'était assez dur parce que les Colombiens, c'est les meilleurs en roller.
Ah ouais.
Donc à ce championnat du monde là, j'ai fini deuxième par équipe, troisième en individuel et deuxième sur le marathon en junior.
D'accord.
Donc c'était une plutôt bonne perf. Et cette même année, j'avais fini 3 fois champion d'Europe à Canelas au Portugal.
Ah ouais.
Et quand
c'était une plutôt belle année.
Quand tu dis 3 fois champion d'Europe, c'est-à-dire alors sur quelle distance, sur quelle ou peut-être en relais ou autre, je sais pas.
Donc j'avais fait, ouais, une fois le relais, une fois le 1000 mètres. Donc le 1000 mètres, c'est une course entre les sprinteurs et les fondeurs, parce que oui, au roller en fait il y a 2 types de coureurs, t'as les sprinteurs qui font donc du 100 mètres jusqu'au 500 mètres, et après les fondeurs qui vont faire du 10 km jusqu'au marathon.
Ouais.
Donc, le 1000 mètres, c'est une course où il y a un peu tout le monde, donc c'est assez dur à gagner. Et après, donc j'avais gagné aussi le 15 000 ou le 10 000 à élimination sur piste.
D'accord. Et ça, le 1000 là, le 1000, t'es sur piste aussi?
Ouais, tout ça c'était sur piste.
Oh putain, mais vous êtes combien là sur la ligne de départ quand vous partez pour un 1000?
Sur un 1000 mètres, on n'est pas beaucoup. En fait, vu que c'est une course de sprint, on est 8. Mais sur une course de fond, le règlement européen, je crois qu'il autorise 33 personnes. Mais là, par exemple, ce week-end, on va être à peu près 50 sur la ligne. Donc, c'est...
Ouais.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Et comment ça se passe là? C'est la guerre. Faut se faire sa place. C'est comment?
En général, il y a les meilleurs qui se retrouvent directement devant et c'est difficile de s'imposer devant. Donc, faut directement aller devant et faire sa place.
Faire la bagarre.
et là, tu sais, comme les pistards, on a eu la chance d'avoir François Pervis l'autre jour comme invité. Forcément, hein, c'est comme vous, hein, c'est pas les mêmes qualités, le sprinter et celui qui est sur du plus long. Et lui, il te disait, les démarreurs, c'est les grosses cuisses, quoi, les grosses cuisses pour démarrer fort. Ouais, comment c'est les gabarits, bien. Vous? C'est un petit peu pareil, c'est du grosse cuisse au départ.
Ouais, on a des grosses cuisses aussi, ouais.
Ouais. Et vous bouffez, j'imagine, à l'entraînement, vous bouffez de la muscu, vous bouffez tout ça pour avoir ces qualités-là, là.
Bah, moi, je fais pas beaucoup de sprint, donc sur le fond, ouais, je fais un petit peu de muscu, mais pas trop.
Ouais.
Et les sprinteurs, normalement, ouais, ils font 2 à 3 muscu par semaine, ouais.
Et tu vois, là, c'est pareil, on parlait un petit peu de chute à vélo, on parlait de tout ça. Là, ça doit cartonner aussi en roller, non? Ça doit souvent être les fesses à terre?
Ouais, ça tombe assez souvent. Mais bon, les chutes, elles sont un peu moins graves qu'au vélo parce que on tombe de moins haut qu'en vélo, on va dire.
Oui, bah ouais.
Et moins vite peut-être aussi. Hein.
Ouais, ça dépend parce que les courses type Tour de France, en fait, on va à la même vitesse qu'eux. Donc,
ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu disais 45 km/h, 50 km/h, c'est...
Ouais, sur un marathon, donc ouais.
C'est impressionnant.
Oh, c'est énorme, ouais.
10 km, des fois on est un peu plus rapide même.
C'est énorme, c'est énorme. Et là, vous êtes comment, là? Vous êtes harnaché, vous avez tout, hein? Vous avez les casques, vous avez les coudes, vous avez les poignets, vous avez tout tous les protèques?
Non, on a seulement un casque.
Ah ouais, d'accord. Ah bah quand tu tombes, ça doit taper lourdement quand même. Moi j'avais...
Comment j'ai pas entendu, excusez-moi.
Quand tu tombes, si t'as que le casque, ça doit taper lourdement sur les fesses quand même ou sur les coudes, j'en sais rien. Ouais.
On a appris à tomber en étant jeune, donc...
Ah oui.
Ah.
T'accompagnes la chute.
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Parce que je disais dans mon introduction, j'exagérais hein, bien entendu, hein, mais qu'on est beaucoup quand même à avoir eu des rollers et à avoir vécu quelques chutes. Et puis ça a été terminé pour nous derrière. T'as suivi la même évolution toi ou t'as été plus chanceux que nous? T'es pas tombé au départ?
Non, je pense que j'étais celui qui tombait le plus au début, ouais.
Ah ouais.
J'ai été gâté par les chutes et en fait on apprend en tombant. Hein.
On apprend en tombant, ouais, ou on arrête, ça dépend des gens.
C'est long.
Moi, pour le coup, j'ai arrêté. Et comment c'est venu, là, cette histoire là? T'as une histoire de famille avec ce roller ou t'y es venu tout seul au roller de compète?
Bah, en fait, le club de Château-Gontier, à l'époque, il organisait un truc qui s'appelait la Roller Pop. C'était une initiation au roller dans le centre-ville.
Ouais.
Et en fait, j'ai essayé quand j'avais 4 ans.
D'accord.
Un peu plus tôt, je crois. Et en fait, à 4 ans, j'ai pris ma première licence de Château-Gontier et après, j'ai pas arrêté.
T'étais déjà un petit génie à 4 ans, quoi. Le petit Mozart du roller.
Non, je faisais que tomber hein, quand j'étais.
Tu vois. Je me suis pas trompé dans mon intro, j'avais mis 4 ans, bah c'était ça, alors c'est là que ça devient. Mais comment c'est parti après? T'as été suivi par la famille, t'as du monde autour de toi, t'as un entraîneur, c'est quoi en roller? Parce que ça reste un petit peu confidentiel quand même qu'en sport.
Bah en fait, je me suis mis donc au roller et toute ma famille a suivi.
Ah.
Mes sœurs et mon petit frère a suivi, après ils ont tous arrêté progressivement, maintenant il n'y a que ma grande sœur qui a continué mais à un niveau plus... pour s'amuser.
D'accord, ouais.
Ma maman, en fait, elle était présidente du club de Château pendant, je crois, 6-7 années, et là, elle est redevenue présidente du club de Château-Gontier.
Donc, ah ouais, d'accord.
Et moi, maintenant, là, je suis plus du tout sur Château-Gontier pour m'entraîner, je suis sur Toulouse.
Ah oui.
Donc, je m'entraîne avec le club de Tibrac, mais je reste toujours licencié au club de Château-Gontier.
Ouais, ça doit être moins bien, alors c'est toujours mieux en Mayenne, normalement.
C'est différent, mais c'est sympa aussi.
Bon, j'espère que ta sœur, donc du coup Bérénice, fait un petit peu avec toi, que je salue, c'est mon élève évidemment, donc j'espère qu'elle nous écoutera. C'est super ton sport là, moi j'ai essayé de m'y remettre, Mathis, j'ai 22 ans je crois à peu près, et j'achète, je fais comme tout le monde là, c'était la mode, alors c'était en 2002 à peu près là, tout le monde a acheté des rollers, donc je me dis je vais faire comme tout le monde moi, je vais acheter ça, et j'ai fait à l'époque à Paris, j'ai fait le Paris Roller Tour, où tu tournes dans Paris là pendant 3 heures, t'as eu l'occasion de faire ça toi un petit peu là?
J'en ai fait des trucs comme ça quand j'étais jeune.
Ouais.
Non, j'en fais plus trop maintenant.
C'est organisé dans les villes, c'est comment? Il y en a quelques-unes des comme ça là?
Alors à Toulouse, oui, je crois qu'il y en a. À Paris, il y en a toujours.
Ouais.
En général, c'est dans les grandes villes, mais je crois qu'il n'y a pas dans toutes les grandes villes. Ouais.
Ouais. Et après, je me suis enflammé un peu. Hein. J'ai essayé d'aller sur une rampe, là, sur les skateparks et compagnie. Et c'est là que ça s'est très mal passé. Et autant te dire que, bah, ils sont plutôt dans la cave, là, depuis 20 ans. T'en as fait, toi, de la... tout ce qui est ça, là, les rampes, enfin, tout ce qu'on... ces images-là qu'on voit complètement démentes, là. T'as fait un peu ça, là ?
J'en ai fait un peu, ouais. En fait, ma première année senior, donc c'était il y a 3 ans, ça a un peu mal passé. Donc, j'avais voulu. J'ai arrêté temporairement le haut niveau en roller.
Ah.
Et je m'étais lancé dans ce qui s'appelle le skate cross, donc en fait c'est un parcours qu'il faut réaliser le plus vite possible avec des rampes, des obstacles et c'est assez sympa.
Ok.
C'est beaucoup moins dans, comment on va dire, dans le haut niveau que le roller de vitesse.
Ouais.
Mais les gars qui font ça, ils sont vraiment très impressionnants quoi.
Ouais, les images qu'il y a, alors pff, moi je comprends toujours pas pourquoi on nous passe ça tout le temps à tout le sport, parce que je trouve ça tellement dangereux, j'ai vraiment envie de dire aux gens, bah non, n'y allez pas, parce que là c'est ça peut être la fracture assurée, mais comme tu dis, c'est hyper impressionnant, c'est magnifique à voir, évidemment. Et tu sais, en tout ce qui est ski et compagnie, là, on avait l'habitude de voir aux Jeux Olympiques, bah, la descente, le slalom, le slalom géant et ainsi de suite, et maintenant on t'invente un petit peu tous ces ski cross, tous ces pipelines, ou je sais pas comment on appelle ça, tous ces sauts à ski et ainsi de suite. Est-ce que tu penses que toi, il y a un avenir là, sur la scène mondiale, au niveau des JO peut-être, avec ces nouvelles disciplines là ?
Bah, alors moi du coup, je suis vraiment spécialisé sur la vitesse, donc
ouais.
Tout ce qui est freestyle, c'est pas trop mon truc.
Oui.
Même si j'aime bien en faire parfois avec des amis, mais non, alors à la limite, si je veux faire les JO, parce que le roller de vitesse n'est pas aux JO, mais si je veux faire les JO, ça serait plus sur glace. Donc il y a les
oui.
Sur glace, ça s'appelle le long track et le short track.
Ouais, je vois bien.
Et donc ça c'est plus ou moins similaire. Le champion olympique français belge, il est aussi champion du monde. Il est aussi champion du monde en roller.
D'accord. Ah ouais.
Deux fois champion du monde en roller.
Incroyable.
C'est exactement la même technique.
C'est plus ou moins. Ouais, plus ou moins en fait c'est très similaire et c'est on va dire que c'est la manière plus ou moins facile d'aller. De se retrouver au JO parce que sinon bah, on va toujours attendre avec le roller.
Ah oui.
Ça fait un peu ce que tu nous dis là, la même idée que les biathlètes qui l'été s'entraînent sur des grands patins avec des roulettes là, des skis à roulettes là. Ça, du coup, ça fait un petit peu la même chose pour vous quoi, entre un patin à glace et un patin à roulettes, enfin un roller.
Ouais, je pense que moi j'en fais pas assez pour savoir si c'est vraiment la même chose, mais j'ai quand même plus ou moins l'impression que quand j'essaye de mettre sur glace, les sensations sont les mêmes. Donc je pense que c'est un peu l'équivalent de...
Ok.
Ouais, des biathlètes.
Ok, mais donc t'en as fait un peu, t'as éprouvé la sensation sur glace aussi.
J'ai fait juste du short track, j'ai jamais testé le long track, mais ouais, c'était plus ou moins pareil.
Ok, allez, non. Et nous, tu sais, on est vieux hein, autour du plateau, là, évidemment. Nous, on était à l'époque du bah, des quatre roues, là, mais des quatre
ouais.
roues les unes à côté des
ouais.
autres, là,
ouais.
Machin. Quand est-ce que ça a basculé, cette histoire, là, où tout le monde est passé au roller en ligne, du coup, là ?
Alors là, c'est un peu une colle.
Ah, je sais pas, t'as pas connu les vieux quatre roues, là.
Ouais.
Je sais donner les noms de l'époque où il y a eu la transition, mais je dirais que ça doit être dans les années entre 2000 et 2010.
Ah non, c'est avant ça, Mathis. Tu vas aller bosser un peu, hein, parce que je peux te dire que c'est avant ça.
Parce que le roller a connu sa grande époque. Hein. Moi, dans les années 80, on en faisait à l'école et tout. Hein.
Mais est-ce que la conversion en passant en ligne, c'était pas vers 2000 ? Je crois que c'est dans ces années-là.
Ouais.
Ouais, bah faudra revoir, parce que pour moi, c'est plus en début 90. Mais je suis pas super sûr de moi. Et comme dit mon ami Gilbo, ça a percé hein, tous ces modes de roller. Il y a eu des profs de PS qui s'y étaient mis. Alors ça s'est un petit peu calmé. Mais avec ces nouvelles disciplines, là, et puis toi, en moteur du département, Mathis, tu vas peut-être réveiller la Mayenne là, et faire en sorte que ça redevienne une discipline majeure dans notre département là. C'est un peu l'ambition ou pas du tout ?
Moi, bon, j'essaye de faire un maximum de communication là-dessus.
Ah ouais.
Surtout que la Mayenne nous aide plutôt bien financièrement et même ils nous font pas mal de pubs, donc c'est agréable, je vais pas dire, parce que
ouais.
quand je discute un peu avec les autres patineurs. les autres patineurs dans la France, on n'a pas le même accompagnement. Donc,
Ah, oui. Ah, ben voilà, évidemment, vive la Mayenne.
Et là, en Mayenne, ça se pratique, du coup, là, tu dis que tu es en Allemagne, tu es sur un anneau, là. Mais c'est, en Mayenne, il y a un équipement pour faire du roller.
En Mayenne, on a. Alors, il y a une piste à Marigny-Peton.
D'accord.
Mètres, donc, elle n'est pas aux normes européennes ou mondiales, elle est vraiment très petite.
Mmh. Ouais.
Après, Château-Gontier, on a une route.
D'accord.
Une route qui est au parc de Oisillières.
Une route pour le roller.
Ouais, c'est ça. En fait, au roller, il y a soit des compétitions sur piste, soit des compétitions sur route.
D'accord.
Soit sur marathon. Et donc, on a la chance d'avoir un bon circuit, une bonne route à Château-Gontier.
D'accord.
Ah ouais, bah
et sur Laval, il n'y a pas, si ?
Non, Laval, je crois qu'il n'y a rien du tout.
D'accord.
Et comment ça se combine, ça ? Alors, évidemment, j'imagine que tu n'es pas professionnel, mais cette vie où il faut s'entraîner quand même pour un barbare pour aller chercher des places européennes et mondiales, et un métier ou en tout cas une vie d'étudiant, tu arrives à combiner tout ça, là ?
Oui, plus ou moins. on a la chance de... J'ai la chance d'avoir des parents qui m'aident financièrement et un sponsor maintenant qui m'aide aussi pour avoir du matériel.
Ouais.
Mais sinon, non, c'est compliqué quand même le roller financièrement de trouver.
Parce que là, tu pars en Allemagne, oui. Tout ça c'est à tes frais, c'est comment
c'est avec
là,
le club.
L'histoire ?
Là, en fait, j'ai la chance d'être avec Power Side Vesmaco, donc c'est la plus grosse équipe internationale en roller.
Ouais.
Et donc, eux, ils m'aident financièrement quand je me déplace, comme ça. Ils me payent le trajet et je suis logé et je suis nourri sur place.
D'accord. Ouais. Ah bon, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal déjà. Je lisais dans ton palmarès, Mathis. Tu vas me dire si c'est important ou pas. Hein, les histoires de trophées rués, les Polish Cup, ça correspond à quoi ce genre de choses là ? Ça avait l'air important quand tu mettais
Polish Cup.
Polish Cup ?
Non.
J'en ai aucune idée.
D'accord, alors peut-être moi j'ai lu le Wikipédia de Jean Galfion peut-être. Non, je déconne, alors ça doit pas correspondre. Non, parce que t'as peut-être des courses annexes qui sont importantes, il n'y a peut-être pas que le championnat du monde, le championnat d'Europe, des choses comme ça.
Ouais. Non, bah, par exemple, là, ce week-end c'est une course très importante, ça s'appelle c'est l'Arena Gesingen, et en fait on est sur la piste qui est la plus rapide du monde.
Ah.
On fait des temps... On ne fait jamais en dehors, donc c'est assez spécial parce qu'on a l'impression d'être hyper rapide, mais en même temps, tout le monde est hyper rapide. Donc
mais alors, comment t'expliques ça là ? Une piste, bah, ça reste bah, j'imagine, une piste. Pourquoi elle serait plus rapide en Allemagne qu'ailleurs là ?
C'est parce qu'en fait, cette piste elle est couverte.
Ah !
Et donc il n'y a pas du tout de vent et on est sur une piste qui est en Vesmaco. Donc c'est le revêtement le plus rapide qui a été trouvé pour l'instant.
D'accord. C'est-à-dire qu'en Allemagne, ils mettent les moyens pour vous faire une piste couverte avec un revêtement et tout.
Ouais, des fois il y a des investisseurs un peu comme ça qui décident de faire des pistes couvertes. Il y en a quelques-unes aussi en Chine, mais sinon non, en France on n'a pas la chance d'avoir de pistes couvertes.
Ah.
L'avantage des pistes couvertes c'est que bah, quand il pleut on peut quand même rouler.
Ah bah oui.
Alors qu'en dehors en général, quand il pleut sur piste, on peut pas rouler, alors que sur circuit routier comme à Château-Gontier, en revanche, on peut rouler. Ouais.
Est-ce que le vent, comme au vélo, a une énorme importance ?
Oui, autant que le vélo, même voire plus, parce qu'en fait, on se met vraiment dans la même foulée que la personne devant.
Ah oui.
Quand la personne pousse à droite, on pousse à droite en même temps.
Ouais. On voit bien les images, ouais.
Ah, ouais.
Et donc, faut vraiment être dans la roue, quoi.
Exactement.
Mais alors autant à vélo, tu vois.
La roue, c'est 35% d'économie d'énergie.
Combien tu nous dis ?
35.
Ouais, 33% en général.
Un tiers.
D'accord. Parce qu'à vélo, tu vois, bah évidemment, on fait tous un petit peu de vélo, donc on se rend un petit peu mieux compte. Mais je vois le concept d'arriver à se mettre dans la roue, c'est pas si compliqué que ça non plus. Alors qu'en roller, ça me semble quasiment impossible d'aller chercher la même foulée, enfin je sais pas si on appelle ça des foulées, ou que le gars de devant, quoi, le même patinage.
Moi, je pense que ça paraît compliqué, mais une fois qu'on est dedans, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense.
Ah ouais.
Ah oui.
Les petits 6-7 ans, ils arrivent directement. Donc,
D'accord.
Et il y a des stratégies d'équipe aussi ? Ah, pardon.
Comment ?
Il y a des stratégies d'équipe ?
Oui, bah là, par exemple, ce week-end, je vais courir avec une équipe.
D'accord.
Et, donc, mon équipe, elle n'est pas au complète, parce qu'en fait, dans ma team, j'ai c'est le champion olympique qui est sur glace, mais il est parti sur une autre compétition, on s'est séparé sur deux compétitions pour
D'accord.
le résultat. Et donc là, j'ai une équipe, on va dire que j'ai l'équipe B avec moi, mais je pense que du coup, je serai le leader ce week-end.
Ah d'accord. Ah ouais, c'est ça, donc chacun a un rôle, tu auras tes équipiers, tu vas les... Tu vas te mettre... D'accord.
Et là, on va affronter une grosse équipe qui s'appelle le nom de la piste, qui s'appelle Arena Gazing Game. Et eux, ils ont vu qu'ils sont à domicile, ils ont toute la team et ça va être vraiment compliqué de
d'aller chercher. Ouais.
Ah. Et tu nous disais là, t'as un champion olympique dans ton équipe là.
Ouais, sur glace.
J'ai le champion olympique sur glace qui est dans mon équipe.
Ah oh, ouais.
C'est un Français.
Ouais, et non.
C'est pas un Français, si.
Non, il est belge, non.
Ah ouais, j'aurais dit hollandais autrement, mais bon.
Ouais, c'est vrai, il est hollandais. Ouais, bah Lino, ça met beaucoup de projecteurs sur votre équipe, ça aussi. C'est pas mal du tout, ça.
Oui, complètement, ouais.
C'est pas mal. C'est quoi l'ambition, toi? C'est quoi la suite, Mathis? Qu'est-ce que tu ambitionnes? Comment tu vois la continuation?
Cette année, alors l'année dernière, j'ai pas été pris au championnat d'Europe ni au championnat du monde. Parce que les sélections, elles sont assez compliquées en France. On a un gros niveau.
Ah ouais.
À d'autres petites nations où c'est beaucoup plus facile de se qualifier pour ces courses-là.
Ouais.
Donc là, cette année, ça va être championnat du monde, championnat d'Europe, la qualification et éventuellement, si possible, un titre au championnat de France. On a 10 courses où on a une possibilité d'avoir un titre.
D'accord.
Et j'espère au moins en ramener un, mais bon, pour l'instant, il faut continuer à s'entraîner.
Ah ouais, écoute, essaye de te faire naturaliser kényan, parce que sur marathon classique, c'est pas évident hein, d'être sélectionné, mais je pense qu'en roller, c'est un peu plus simple. Tente.
C'est pas sûr qu'il y a des kényans qui mettent des rollers, non.
Tente le coup. Ouais, d'accord, donc grosse charge d'entraînement, c'est quoi ton rythme?
Mon rythme, c'est 2 fois par jour, un matin.
Ah ouais.
Ouais, faut aimer.
15 à 17h par semaine.
Ah oui, d'accord. Ah ok. Tu vois, c'est très bizarre hein, parce qu'on a eu la chance d'avoir Gabriel Bordier, notre marcheur mayennais, qui est allé aux Jeux Olympiques sur le 20 km marche cet été.
Ouais.
Et tu vois, je pensais qu'il allait m'annoncer qu'il avait 2-3 entraînements par jour, des charges colossales et tout. Et en fait, non, il nous parlait plutôt de 2-3 par semaine. Et alors que le gars, c'est la marche aux Jeux Olympiques. Et tu vois, à l'inverse, toi, je pensais que tu allais me dire que c'était peut-être 3 fois par semaine et ainsi de suite. Bah non, disons, faut s'y coller toutes ces heures-là.
Non, ouais, faut surtout être assidu parce que on va dire que le haut niveau pour y accéder c'est très compliqué et après pour y rester en roller c'est encore plus.
Oh, ah, j'imagine, ouais.
Mais ça veut dire que t'as du monde quand même, t'as un paquet de monde à faire de la discipline là.
Là ce week-end alors il y a deux grosses compétitions mais à Gazingen on est 140 dans ma catégorie.
Ouais. Et ensuite, j'imagine tous ceux qui sont pas sélectionnés et qui s'entraînent dans leur coin aussi. Putain, tu vois, ça m'impressionne complètement ton histoire là. Bravo à toi, bravo, putain. Bravo à toi. Nous là, si on est Lavallois, on s'y met où nous? On peut. C'est quoi le petit circuit qu'on peut faire nous
pour aller à Château-Gontier.
Pour s'initier, on est obligé.
Où est-ce qu'il y a un circuit? Il y a un circuit à Château-Gontier, il y en a un à Évron.
Ah ouais?
Ah oui.
Il y en a un à Évron, il y en a un à Marigny-Peton, un à Mêlée-du-Maine.
D'accord.
Et il me semble qu'il y a quelque chose à Mayenne. Il y a un club à Mayenne, mais je ne sais pas si.
Oui, il y a un club. Ils font en salle, je crois, c'est ça, non?
J'en ai aucune idée.
D'accord. Bon, c'est pas grave.
Et tout ce qui est, tu sais, le reste là, toi, rink hockey, non, t'as rien à voir avec ça, t'as jamais essayé ces choses-là?
Le quoi?
Le rink hockey.
Tout ce qui est rink hockey, ouais.
Ah oui, c'est différent, ouais.
Ouais.
C'est aussi sympa, hein. En général, quand on se débrouille sur les rollers, on aime bien toutes les disciplines qui tournent autour du roller, mais.
Oui.
Mais non, j'en ai jamais fait de compétition ou rien. J'en ai juste fait avec mon club de roller, mais juste pour rigoler, quoi.
Ouais, d'accord. Ouais. Bah écoute, Mathis, il va falloir que tu viennes dans mon lycée un petit peu hein, pour initier les élèves là, parce que tu m'intéresses avec ta discipline. Alors ce qui est compliqué évidemment, c'est d'avoir tout le matos, mais ça doit être vachement sympa, ouais. Ça doit être vachement sympa de regarder ça, ouais. Bon après, faut l'équipement aussi, ça c'est sûr. Ouais. Bravo à toi, Mathis. Hein. On est vraiment super content. Et en plus, et vous avez de la chance, hein, messieurs dames, qui nous écoutez, c'est que le gars est en pleine compétition, quoi. Il est, t'es au taquet là. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu sors de course? Tu rentres en course? C'est comment là?
C'est
Là, en fait, on a une course qui s'appelle le Dobby Sprint. On a 100 mètres pour se lancer et après, on a un 200 mètres à fond.
Ah oui.
Donc, il faut faire le meilleur temps tout seul.
Ah, d'accord.
Sauf que j'ai pas fait le meilleur temps parce que on était 140 à patiner et j'étais dans les derniers à passer.
Ouais.
Et entre mon échauffement et le moment où je suis passé, il y a eu une bonne trentaine de minutes.
Ah.
Aïe.
J'étais tout froid et bon, je pense que j'aurais pu. Peut-être pas aller chercher une finale parce que c'était les 10 meilleurs en finale et il y a les meilleurs du monde en sprint, donc comme on disait, les gros Suisses qui sont là.
Ouais.
Et je pense un top 15, un top 20, ça aurait pu être possible.
Ah ouais,
d'accord. Tu t'es refroidi dans la chambre d'appel, là, dans la.
Ouais, c'est compliqué de s'échauffer. C'est un tir à l'auteur après. C'est,
ah ouais, tiens.
On n'y peut rien, mais bon.
Ok. T'as fait une Usain Bolt pour ces derniers championnats du monde, je crois. C'était le même souci. Il s'était échauffé 30 minutes avant et puis la chambre d'appel était interminable. Il s'est blessé sur son dernier 100 mètres, le pauvre. Bah voilà, tu vois, t'as eu le Usain Bolt du roller. Bravo à toi, Mathis. Bon, c'est un super moment que tu nous as offert, Mathis. Merci beaucoup d'avoir pris de ton temps. On te souhaite évidemment le meilleur là sur cette compète. Et pour le reste, c'est un gros plaisir de t'avoir eu.
Ah, merci beaucoup, c'était vraiment sympa.
Allez, on te laisse. On te
salut
laisse
Mathis.
Te concentrer. Salut,
merci,
Mathis. À bientôt. Eh ben messieurs là, vous en avez de la chance. C'était Mathis Rocher pour du roller. Là, vous avez vu toutes ces belles disciplines que vous pouvez découvrir, notamment donc à Château-Gontier, Évron et un petit peu sur Laval. Et puis si vous êtes courageux, ouais, vous allez tout seul hein, sur la route. Mais équipez-vous en protection, bien entendu, la sécurité avant tout.
Surtout la tête.
Oui, la tête, bien entendu, mon Gilmo. C'est super. Voilà, c'est super. On venait d'avoir qui on avait eu. On avait eu François Pervis. On avait eu notre lanceuse de marteau, évidemment, Manuela Montebrun. Extraordinaire de champion. Et là, on a encore un gars qui est au championnat du monde, championnat d'Europe. C'est formidable, la Mayenne. Qu'est-ce qu'on est bien noté. Et bien là-dessus, on vous laisse, messieurs-dames. Et on se dit donc dans 15 jours. À très bientôt.
Ciao.